encore abasourdi par cette suite d'événements pour le moins miraculeux, j'allais lui demander d'autres explications quand un bruit soudain et sec fit diversion. Il provenait du pied de l'escalier oriental qui menait à la bibliothèque. « Notre homme est là, prends-le !» cria Guillaume, et nous nous jetâmes dans cette direction, lui plus rapide, moi plus lent parce que je portais la lampe. J'entendis un fracas de personnes qui achoppe et tombe, j'accourus. Je trouvai Guillaume au pied de l'escalier qui observait un lourd volume à la couverture renforcée de broquettes métalliques. Au même instant, nous entendîmes un autre bruit provenant de la direction d'où nous étions venus. « Sot que je suis !» cria Guillaume. « Vite, à la table de Vénantius !» Je compris. Quelqu'un qui se trouvait dans l'ombre derrière nous avait lancé le volume pour nous appâter le plus loin possible. Encore une fois, Guillaume fut plus rapide et atteignit la table avant moi. En le suivant, j'entrevis au milieu des colonnes une ombre qui s'enfuyait en enfilant l'escalier de la tour occidentale. Pris d'une ardeur guerrière, je mis la lampe dans la main de Guillaume et me précipitai à l'aveuglette vers l'escalier par où était descendu le fuyard. À ce moment-là, je me sentais comme un soldat du Christ en lutte avec toutes les légions infernales et j'ardais du désir de mettre les mains sur l'inconnu pour le remettre à mon maître. Je dégringolai presque littéralement les escaliers à vis, en me prenant les pieds dans les pans de ma robe. Ce fut l'unique moment de ma vie, je le jure, où je regrettais d'être entré dans un ordre monastique. Mais au même instant, et ce fut une pensée éclair, je me consolais à l'idée que mon adversaire aussi devait souffrir d'une pareille entrave. Et en plus, s'il avait dérobé le livre, il devait avoir les mains occupées. Je me précipitai presque la tête la première dans les cuisines, derrière le four à pain, et à la lumière blafarde de la nuit étoilée qui éclairait le vaste passage, je vis l'ombre que je suivais prendre la porte du réfectoire et la tirer derrière elle. Je fonçai vers cette porte, peinai quelques secondes pour l'ouvrir, entrai, regardai autour de moi et ne vis plus personne. La porte qui donnait sur l'extérieur était encore barrée. Je me retournai, ombre et silence. J'aperçus une lueur qui venait de la cuisine et m'adossai à un mur. Sur le seuil de passage entre les deux salles apparut une silhouette éclairée par une lampe. Je criai, c'était Guillaume. Il n'y a plus personne, je le prévoyais. Il n'est pas sorti par une porte, il n'a pas pris le passage de l'ossuaire. Non, il est sorti par ici, mais je ne sais pas par où. Je te l'ai dit, il y a d'autres passages. Et il est inutile que nous les cherchions. Il est probable qu'en ce moment notre homme émerge de nouveau quelque part loin d'ici et avec lui... « Mes vers. »«
Vos vers ?»«
Précisément, mes vers. Notre ami n'a pas pu me voler la feuille, mais, avec une grande présence d'esprit, en passant, il s'est emparé de mes vers qui étaient sur la table. »«
Et pourquoi ?»«
Parce que ça n'est pas un idiot. Il m'a entendu parler de ces notes. Il a compris qu'elles étaient importantes. Il a pensé que sans mes vers, je ne serais pas en mesure de les déchiffrer. » Et il tient pour sûr que je ne me fierais de les montrer à personne. De fait, à présent, c'est comme si je ne les avais pas.
Mais comment connaissait-il l'existence de vos vers ?
Allons, à part le fait que nous en avons parlé hier avec le maître verrier, ce matin je les ai chaussés dans le scriptorium pour fouiller dans les affaires de Vénantius. De nombreuses personnes pourraient donc savoir combien ces objets m'étaient précieux. Et de fait, je pourrais même lire un manuscrit normal, mais pas celui-ci.
Il déroulait de nouveau le mystérieux parchemin,
où la partie en grec est trop petite et la partie supérieure trop incertaine.
Il me montra les signes mystérieux qui étaient apparus comme par enchantement à la chaleur de la flamme.
Vénantius voulait cacher un secret important, et il s'est servi d'une de ces encres qui écrivent sans laisser de traces et réapparaissent à la chaleur, ou bien il a utilisé du jus de citron. Mais comme je ne sais pas de quelle substance il a usé, et que les signes pourraient redisparaître.
Vite, toi qui as de bons yeux, transcris-les tout de suite de la façon la plus fidèle possible, et même si tu peux, un tantinet plus grand.
Ainsi fis-je, sans savoir ce que je copiais. Il s'agissait d'une série de 4 ou 5 lignes, en vérité, relevant de la sorcellerie. Et je reporte maintenant les premiers signes seulement pour donner au lecteur une idée de l'énigme que nous avions devant les yeux. Lorsque j'eus copié, Guillaume regarda. Malheureusement sans verre, tenant ma tablette à une bonne distance de son nez.
« C'est certainement un alphabet secret qu'il faudra déchiffrer, dit-il. Les signes sont mal tracés, et peut-être les as-tu recopiés pire encore, mais il s'agit à coup sûr d'un alphabet zodiacal. Tu vois, Dans la première ligne, nous avons... Il éloigna encore la feuille de lui, plissa les yeux avec un effort de concentration. Sagittaire, Soleil, Mercure, Scorpion. Et qu'est-ce que cela signifie ? Si Vénantius avait été un ingénu, il aurait utilisé l'alphabet zodiacal le plus commun. A égale Soleil, B égale Jupiter. La première ligne se lirait alors, essaie de transcrire. R-A-I-Q-A-S-V-L. Il s'interrompit. Non, ça ne veut rien dire. Et Vénantius n'était pas un ingénu. Il a reformulé l'alphabet selon une autre clé. Il faudra que je la découvre. Est-ce possible ? Demandai-je ébloui. Oui, si l'on connaît un peu de la science des Arabes. Les meilleurs traités de cryptographie sont l'œuvre de savants infidèles. Et à Oxford, j'ai pu m'en faire lire quelques-uns. Bacon avait raison de dire que la conquête du savoir passe par la connaissance des langues. Abu Bakr Ahmad Ben Ali Ben Yashiya An-Nabiti a écrit il y a des siècles un livre du désir frénétique du dévot d'apprendre les énigmes des antiques écritures. Et il a exposé de nombreuses règles pour composer et déchiffrer des alphabets mystérieux, bons pour des pratiques de magie, mais aussi pour la correspondance entre les armées, ou entre un roi et ses propres ambassadeurs. J'ai vu d'autres livres arabes qui énumèrent une série d'artifices fort ingénieux. Tu peux par exemple substituer une lettre à une autre, tu peux écrire un mot à l'envers, tu peux mettre les lettres dans l'ordre inverse, mais en prenant une sur deux et puis en recommençant depuis le début. Tu peux, comme dans le cas présent, remplacer les lettres par des signes zodiacaux, mais en attribuant aux lettres cachées leur valeur numérique, et ensuite, selon un autre alphabet, convertir les nombres en d'autres lettres. Et lequel de ces systèmes aura utilisé Vénantius ? Il faudrait les essayer tous, et d'autres encore. Mais la première règle pour déchiffrer un message, c'est de deviner ce qu'il veut dire. Mais alors, il n'y a plus besoin de le déchiffrer, ris-je. Pas précisément. On peut cependant formuler des hypothèses sur les mots qui pourraient être les premiers du message et ensuite voir si la règle qu'on en infère vaut pour tout le reste de l'écrit. Par exemple, ici, Vénantius a certainement noté la clé pour pénétrer dans le Finis Africae. Si j'essaie de penser que le message parle de cela, voilà qu'à l'improviste un rythme m'éclaire. Essaie de regarder les trois premiers mots. Ne tiens pas compte des lettres, considère seulement le nombre des signes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, essaie de les diviser en syllabes d'au moins deux signes chacune. Et récite à voix haute. Ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta. Ça ne te rappelle rien ? À moi, non. À moi, si. Secretum finis Africae. Mais s'il en allait ainsi, le dernier mot devrait avoir la première et la sixième lettre égales. Et de fait, c'est ainsi, voilà deux fois le symbole de la Terre. Et la première lettre du premier mot, le S, devrait être identique à la dernière du second. Et de fait, voilà répéter le signe de la Vierge, c'est peut-être la bonne voie. Il pourrait aussi ne s'agir que d'une série de coïncidences. Il faut trouver une règle de correspondance. La trouver où ? Dans sa tête. L'inventer, et puis contrôler si c'est la bonne. Cependant, entre un essai et un autre, le jeu pourrait me prendre une journée entière. Pas davantage, car souviens-toi, il n'y a aucune écriture secrète qui ne puisse être déchiffrée avec un peu de patience. Mais à présent, nous risquons de trop nous attarder, et nous voulons visiter la bibliothèque. D'autant que sans verre, je ne réussirai jamais à lire la seconde partie du message. Toi, tu ne peux pas m'aider parce que c'est signe à tes yeux. « Grecum est non legitur », complétais-je humilié. « Justement, et tu vois que Bacon avait raison, et tu dis. Mais ne perdons pas courage. Remisons le parchemin et tes notes et montons à la bibliothèque. Car ce soir, 10 légions infernales même ne parviendront pas à nous retenir. » Je fis le signe de la croix. « Mais qui a bien pu nous précéder ici ? Bense ?» Bense brûlait de l'envie de savoir ce qu'il y avait dans les affaires de Vénantius, mais il ne me semblait pas avoir la tête à nous jouer des tours aussi malicieux. Au fond, il nous avait proposé une alliance, et puis il m'avait l'air de manquer de courage pour entrer la nuit dans l'édifice. Alors, Béranger ou Malaki ? Béranger m'a tout l'air d'avoir la trempe de faire des choses de ce genre-là. Au fond, il est co-responsable de la bibliothèque. Il est rongé par le remords d'en avoir trahi quelques secrets. Il jugeait que Vénantius avait distrait ce livre et voulait sans doute le reporter à la place d'où il vient. Il n'a pas réussi à monter. À présent, il cache le volume quelque part. Et nous pourrons le cueillir sur le fait, si Dieu nous assiste, quand il tentera de le remettre en place. Mais ce pourrait être aussi Malachi, mû par les mêmes intentions ? Je ne pense pas. Malachi avait eu tout le temps qu'il voulait pour farfouiller dans la table de Vénantius quand il est resté seul pour fermer l'édifice. Je le savais très bien, et je n'avais pas moyen de l'éviter. À présent, nous savons qu'il ne l'a pas fait. Et si tu y réfléchis bien, nous n'avons pas de motif pour soupçonner que Malachi savait que Vénantius était entré dans la bibliothèque en y dérobant quelque chose. C'est ce que savent Béranger et Bensé, et c'est ce que nous savons toi et moi. À la suite de la confession d'Adelme, Yorgué pourrait le savoir. Mais ce n'était certes pas lui, l'homme qui se précipitait avec une telle fougue dans l'escalier à vis. Alors, ou Béranger ou Bensé ? Et pourquoi pas Pacifico de Tivoli ? Ou un autre des moines que nous avons vu ici aujourd'hui, ou Nicolas Le Verrier, qui sait bien l'existence de mes lunettes, ou ce curieux personnage de Salvatore, qui nous a-t-on dit rôde la nuit à la recherche de qui sait quoi. Nous devons veiller à ne point restreindre le champ des suspects simplement parce que les révélations de Bensé nous ont orientés dans une seule direction. Bensé voulait peut-être nous embrouiller. Mais il vous a paru sincère ? Certes. Souviens-toi pourtant que le premier devoir d'un bon inquisiteur, c'est celui de soupçonner d'abord ceux qui te semblent sincères. Damné travail que celui d'inquisiteur, dis-je. C'est bien pour cela que je l'ai abandonné. Et comme tu vois, il me faut le reprendre. Mais du cœur, à la bibliothèque.